Et sur l'alternative musicale, c'est avec grand plaisir que comme, allez, une fois tous les 15 jours, on va le dire, on accueille Marie, Marie Lostis pour Mémoire de Festival. Comment vas-tu Marie depuis ces 15 derniers jours?
Ça va très bien, tant que le soleil brille.
Et c'est vrai que le soleil est plutôt généreux, comme il va l'être généreux, j'en suis certain, à la fin du mois de mai, on va parier là-dessus.
Hein. Ah, pas de raison.
Avec cette belle programmation qui est tombée, parce que en fait, entre-temps, et c'est vrai qu'avant qu'on aborde la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu la préhistoire pour reprendre tes propres mots, les mots que tu m'as envoyés par texto pour évoquer ces festivals qui ont préfiguré l'arrivée de Hard Rock. Un petit mot sur la programmation qui est tombée en général. Alors je sais que tu te gardes ce devoir de réserve qui te caractérise, mais si tu avais un petit mot pour la caractériser, tiens.
Je la trouve très intelligente cette programmation, parce que au lieu de faire un retour nostalgique à les 40 ans, etc., elle s'inscrit vraiment dans l'actualité aujourd'hui, maintenant, et voire même en devenir, et je la trouve très pertinente justement, et on retrouve un peu cet esprit de découverte. Il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas forcément connus du public costa-armoricain, et c'est l'ADN d'Hard Rock, et je la trouve très très belle cette programmation.
Je te rejoins sur ce côté découverte, parce qu'il y a encore des groupes, même nous qui sommes tout le temps le nez dedans, il y a encore des groupes qu'on va découvrir grâce à cette programmation, donc je te rejoins vraiment. Donc on le disait, avant de devenir Hard Rock, il y a eu des prémices à ce festival qui aujourd'hui, qu'on évoque tous les 15 jours avec grand plaisir, qui a maintenant une véritable identité, etc. Il a fallu la construire, cette identité. Il a fallu, je sais que c'est un terme un petit peu bizarre, identité. Bon, on va dire, il a fallu la construire, en tout cas, cette singularité qui caractérise Hard Rock. Il a fallu, faire pas des brouillons, c'est pas le bon terme, mais enfin, c'est presque ça, finalement.
Oui, voilà, oui. Non, mais je trouvais important, l'année où on va fêter les 40 ans, de rappeler que c'était pas du tout cuit à Rock, ça a pas été comme ça d'un claquement de doigts, et je trouve intéressant, oui, de voir la préhistoire, et j'assume complètement le terme de préhistoire, puisque on revient en 1979, donc c'est la préhistoire. Une préhistoire que moi, à titre personnel, je n'ai pas connue, puisque moi je suis arrivé qu'en 1981 dans l'association Wild Rose, mais ça tout part de Quessois, du club des jeunes de Quessois, en 1979, dont Jean-Michel Boinet était déjà le président, et il était avec une bande de copains, et ils ont l'idée de faire ce fameux festival folk de Quessois en juin 79. Fameux parce que, pourquoi fameux? C'est pas dit tout à fait en l'air, c'est parce qu'il faut se resituer dans l'époque. Il n'y avait pas de festival en Bretagne, il n'y avait pas de lieu de concert, donc il n'y avait pas de concert. Il y avait en revanche un excellent et très riche réseau de cafés-concerts. Donc si on voulait voir de la musique en live, il fallait aller dans les cafés-concerts. 79, c'est aussi l'époque où les musiciens bretons commençaient à sortir du seul chant des Fest-Noz et se produire en concert. Donc Jean-Michel et ses amis, qui étaient très férus de ces musiques rock, musique traditionnelle, mais aussi chansons, etc., ont inventé un festival dit folk à Quessois. Ils ont eu la grande participation de Louis-Pierre Guinard, qui est de Quessois également, et qui après est devenu chanteur de la Myrlée Tantouille, puis de Casse-Pipe, qui a beaucoup aidé Jean-Michel en termes de programmation. Okay. Et donc il y a eu des noms, Dan Arbraz, Imago, Gérard Delahaye, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Yann Franche-Kemener, tous ces gens-là, Eric Marchand, tous ces gens-là étaient à l'affiche du Festival Folk de Quessois, qui a été un petit événement, vous imaginez, dans le bourg,
oui.
Parce que soudain on a vu débouler pas moins de 10 000 spectateurs, et les spectateurs, c'était des hippies, quoi. On va pas se raconter d'histoire. D'ailleurs, tous les gens du bourg disaient « Ah, voilà les hippies !» Donc ça n'a pas été évident. Le lieu du festival était excentré par rapport au bourg, mais bien évidemment, les festivaliers fréquentaient le bourg.
Moi, je crois que ça
avait... les excès qu'on peut imaginer.
Je croyais que ça n'avait pas si bien marché que ça, le premier, mais non, en fait, il avait carrément cartonné.
Ah, mais ça a d'autant bien marché qu'à l'époque, ils le faisaient sous l'égide du club des jeunes de Quessois.
C'est ça.
Et quand ils ont fait leur compte, ils se sont aperçus qu'ils étaient bénéficiaires. Et c'est là qu'ils ont décidé de créer une association, l'association Wild Rose.
Très bien.
Créée en mars 79. Et Jean-Michel continuait la présidente. Enfin, il était président de l'association Wild Rose en mars 79, oui.
Sacrée année.
Suite à ce festival qui a été un fameux succès.
Sacrée année, parce que c'est aussi l'année de naissance des transmusicales, quand même.
Exactement.
C'est pas très, très loin, tout ça.
Oui.
Mais t'as bien raison de le souligner, Marie. Avant cette année-là, alors il y avait Elixir qui était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, on va dire. Parce que Elixir, c'était quelque chose d'un petit peu particulier. Et puis c'était le seul festival qu'il y avait. Et puis c'était le Finistère. Elixir, en plus, c'était pas
c'était
trop...
C'était après Elixir.
C'était après même, tu vois.
Mais oui, parce qu'il nous... Petite anecdote, on a reçu un courrier d'une bande de Finistériens, on va dire, je ne me rappelle plus d'où ils étaient.
Saint-Urbain,
qui nous demandait et qui nous demandait, avec le timbre pour la réponse, 6 juin, et qui nous demandait comment on avait fait pour... Enfin, ils avaient fait, moi j'y étais pas dans le coup, pour organiser ce festival. Je me rappelle toujours de... parce qu'on l'a gardé, le courrier, la mention « Merci de nous indiquer tous les frais et faux frais, entre parenthèses, cachets d'artistes, etc. » Donc déjà, à l'époque, le festival Elixir considérait les cachets d'artistes comme des faux frais. Ils ont sûrement changé après.
Ah bah tu vois, c'est bien, parce que je croyais que c'était l'inverse. Donc Elixir, c'est venu après
oui, Rock. L'année d'après, je pense. Voilà. Enfin, je sais pas, peut-être la même année, mais en tous les cas, ce courrier a bien, bel et bien existé, puisque on l'a à la maison.
Excellent.
Non, mais c'est pas le c'était... Il y avait, en revanche, eu déjà le festival de White en Angleterre. Ouais. Je sais plus quelle année, mais bon, il y avait d'autres festivals, mais outre-Atlantique et outre-Manche.
En tout cas, 10 000 personnes, 10 000 hippies, comme tu le disais, qui arrivent à Quessoy,
oui.
Ça a
dû... Sur deux jours, ça
a dû faire causer dans les chaumières, tout ça.
Pour le moins. Les anciens s'en souviennent encore, et on parle encore. Et il y avait certaines maisons qui avaient fermé tous leurs volets, bien fermé les barrières, et... Oui, oui. Mais tout s'est bien passé, enfin, il n'y a pas eu de grabuge. D'ailleurs, le service d'ordre était assuré par les papas de tous les membres du club de jeunes de Quessoy.
Excellent.
Et un service d'ordre très efficace. Et voilà. Et donc, après ça, en parallèle quand même, et bien d'ailleurs, avant 79, le Club des Jeunes organisait le carnaval de Quessoy.
Oui,
Jean-Michel
qui existe
et
toujours.
Copains, d'ailleurs, c'est eux qui organisaient le carnaval. Ça part pas de rien quand même, l'idée de faire un festival, ils avaient déjà organisé quelque chose dans le bourg. Et donc ils créent cette association Wild Rose en mars 79, et ils se mettent à organiser un premier concert avec Sugar Blue et Connection à la salle de la Cité à Rennes. Pourquoi Rennes? Parce qu'ils étaient majoritairement des étudiants rennais, donc on avait le réflexe de Rennes. Et en 1979, c'est là qu'ils rencontrent l'équipe naissante des Transmusicales, avec lesquelles tout de suite il y a eu une accroche. Et d'ailleurs, la première édition des Transmusicales est coproduite par l'association Wild Rose.
Okay.
C'est mentionné sur l'affiche collector, si vous le l'avez. Superbe affiche qui était réalisée par notre ami Pierre Fablet d'ailleurs. Et donc il n'y a eu qu'une édition, coproduite par l'association Wild Rose, une édition des Transmusicales. Mais après, nous, enfin Jean-Michel et moi, on s'est beaucoup investis en tant que bénévoles, tout simplement, aux Transmusicales. Et moi, je tenais le bar VIP et Jean-Michel tenait la barrière, gardait la barrière qui permettait d'accéder au bar VIP. Et tout ça à la salle de la Cité à Rennes. Et donc on a fait 4 ou 5 éditions comme ça. Et c'est aussi sur ce terrain-là qu'on a appris, qu'on a pris des contacts, on a observé, qu'on a compris comment ça marchait. Je veux dire.
Oui, parce que vous étiez complètement en découverte.
Avant, on était étudiants,
voilà,
tous les deux, nous.
C'est ça.
Notre motivation, c'était essentiellement de se faire plaisir, vous savez. Et on constatait qu'à Saint-Brieuc et dans le coin, il n'y avait rien. Donc c'est comme ça qu'on nous est venu l'idée de faire des festivals. Mais donc avant de créer un rock. Eux, ils ont continué à faire des concerts. Figurez-vous que le concert de Téléphone et Marc Itzad en août 79 à la salle de Robien, c'est quand même Jean-Michel et ses copains qui l'ont organisé avec la totale complicité. C'était une initiative des Transmusicales.
Ouais.
Et Jean-Michel et ses copains étaient le relais, on va dire, et c'est eux qui ont organisé ce concert, quoi.
Téléphone
et Marc Itzad.
Ouais,
pas mal quand même.
Marc Itzad, qui était à la première. Je crois qu'il faisait partie de la première affiche des Transmusicales aussi, pour le coup.
Ah, bah oui, pour le coup, oui, ouais. La même année d'ailleurs. Oui, oui.
Téléphone,
mais en plein enregistrement de leur premier album, août 79, ils ont accepté de lâcher leur studio et de venir pour une date unique à Saint-Brieuc, à la salle de Robien. C'était assez génial quand même.
Téléphone qui était en plus plutôt déjà bien connu, bien reconnu à l'époque.
Ouais.
Hein.
C'était drôle comme programmation, parce que c'est pas tout à fait, c'est loin même d'être...
C'est pas le même univers, non.
Le même univers. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de relations entre les deux groupes. Pour ceux qui savent pas, il y en a un qui s'affiche vraiment rock, enfin Téléphone, et l'autre était plus dans la mouvance punk, on va dire.
Ouais.
Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais bon, il y a eu du monde, certainement, j'en sais rien, d'ailleurs, j'y étais pas. Si, j'y étais, mais en tant que spectatrice. Mais c'est pour vous dire, quoi, qu'il y a eu quand même pas mal de concerts qui étaient organisés par Jean-Michel et ses copains. Et après, ils poussent le bouchon jusqu'à organiser une tournée dans l'Ouest de Sugar Blue, le fameux Blues Bland. Mais ils sont allés à Brest, à Quimper, etc. Et c'est là aussi qu'ils ont un peu essuyé les plâtres. Et alors, ils faisaient tout, quoi. L'affichage, la billetterie, le service d'ordre, l'accueil artiste, etc. La location de la salle, enfin. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend ce qui est devenu un métier, ce qui n'était pas à l'époque. On ne parlait pas de métier ou de profession à l'époque.
On ne parlait même pas de musique actuelle. Hein. On parlait,
ah bah non, le terme
n'existait pas.
Non. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont un peu appris... qu'ils ont fait leurs premières armes. Et moi, j'arrive par là-dessus, donc en 1981. J'arrive dans l'association et dans le groupe. Et on se met à organiser. Enfin, moi, j'étais étudiante aussi à Rennes. Et je précise ça, c'est parce qu'à Rennes, il se passait plus de choses quand même. Enfin, il y avait plus de concerts, la salle de la cité, tout ça, nana. Et quand on rentrait le week-end chez nos parents, on se disait, mince, quoi, il se passe rien, nana. Et donc, on a eu envie, comme ça, de se lancer. Et donc, on avait accès, on louait la salle de Robien, qui était une salle municipale. Et donc, dans les tout premiers concerts qu'on a pu faire en 1981, on a pris le risque de faire une programmation avec deux groupes antagonistes par leur ville, puisqu'il y en avait un de Brest, Printemps Noir, avec Christophe Miossec, c'était le premier groupe de Christophe, et l'autre, Les Conquérants de Rennes. Ouais. Je vous assure qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. On nous a même dit, vous prenez des risques.
Parce qu'il y avait un risque de baston,
Complètement. Il y avait une rivalité énorme entre Brest et Rennes. Rennes étant plus, on disait pas pop à l'époque, mais enfin, bah si, vous voyez l'ambiance Marquis de Sade, Étienne Dao, etc. Et Brest se revendiquant plus rock pur, enfin rock plus dur, enfin, puis rock à boire, comme chantait bien Christophe Miossec.
Qui a un peu changé depuis, mais... hein, il ne boit plus du tout d'ailleurs, entre temps.
C'est vrai, je confirme. Et donc, ça s'est très bien passé. Pour moi, c'était une première organisation. Et en parallèle de ça, quand on rentrait le week-end, tout ça, on avait vraiment des envies de continuer. L'envie, donc, c'était en tant que spectateur, mais c'est aussi que notre cercle d'amis était beaucoup des musiciens.
Ouais.
Je vous parle des Nus, je vous parle du Bic, je vous parle de gens comme ça, qui avaient peu d'occasions de se produire, et on a dit, qu'à cela ne tienne. On a cherché des lieux à Saint-Brieuc, il n'en existait pas. Je maintiens, et on est allé dans les foyers de jeunes travailleurs.
Okay. Et même la Maison du Peuple, c'était pas possible.
Oh non, à l'époque c'était vraiment...
J'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un serpent de mer, mais on dit qu'on va la réhabiliter, ce serait génial d'ailleurs, parce que c'est un super lieu.
Raison de rappeler que c'est un serpent de mer.
Malheureusement, mais ça serait... Oui, parce que c'est un super lieu, moi j'ai eu l'occasion
Non, pour la simple et bonne raison, on l'a essayé, mais nuisance sonore, le voisinage n'aurait jamais accepté, on nous a dit non, passez votre chemin.
Si vous connaissez pas, vous qui nous écoutez, la Maison du Peuple, ça se situe juste derrière Poulain-Corbion, actuellement, qui est le lieu névralgique du festival à Rock. Ça serait quand même un sacré... Ça serait bien qu'ils la refassent, vraiment, tiens, j'appelle...
Mais elle a un chic, hein, architectural,
ne serait-ce que
la façade, parce que devant, vous allez voir, il y a un chic, quoi.
Exactement. En tout cas, c'était pas possible à la Maison du Peuple.
Ah, mais non, c'était pas possible. Quand je dis on a tout écumé, on a tout cherché, et en fait, on est allé vers les foyers de jeunes travailleurs. Il y avait deux foyers de jeunes travailleurs à l'époque, le Rocher Martin, près de l'école Saint-Charles, avec un type génial, Albert, qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts, d'autant que lui, il avait une petite salle de spectacle, quoi. Et le foyer Paulbert, où là, il n'y avait pas de salle, donc on a fait dans une salle avec du carrelage, avec des néons, mais c'est pas grave, on a tout bien décoré. Et donc on faisait comme ça tout au long de l'année, des concerts régulièrement, et on a fait aussi une programmation avec les transmusicales, on appelait ça les transmusicales. C'était pas les transmusicales décentralisées, mais on repérait des groupes des transmusicales, et puis on les faisait venir une fois à Saint-Brieuc, une fois à Quessoy, carrément.
Qui s'est un peu poursuivie même aujourd'hui, parce qu'on sait que les programmateurs, enfin Jean-Michel allait de tous les ans au Transmusical. Aujourd'hui Alice y va forcément au Transmusical. D'abord parce que c'est un festival, alors qui était peut-être pas aussi marqué découverte à l'époque, hein, même s'il a toujours eu ça dans son ADN, pour reprendre l'expression à la mode. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est incontournable de toute façon, et c'est assez logique finalement de retrouver à Rock, y compris en 2023, des groupes qui sont produits au Transmusical. Mais c'est donc une pratique depuis le départ finalement.
Complètement, ce sont devenus des amis d'ailleurs. Hervé Bordier, on est toujours en contact, enfin, et Jean-Luc Brossard, enfin bon, sont devenus des amis. On était animés de le même amour des mêmes musiques, on était animés de la même envie de faire bouger les choses, et on était complètement sur la même longueur d'onde. Mais en l'occurrence, à l'époque, on ne décentralisait pas, on faisait pas la tournée des trans, enfin, on faisait pas la tournée comme
ça
on voit maintenant.
Pas, de toute façon.
Et donc, nous, on a innové en le faisant donc à Quessoy, à Saint-Brieuc, enfin, mais en totale complicité avec eux, bien évidemment.
On a un peu digressé, Marie, mais c'est vrai que, alors, donc, entre Brest et Rennes, finalement, il n'y a pas eu de bagarre.
Non, il n'y a pas eu de bagarre, non.
Ah, c'est pas mal, c'est important à dire aussi. On va se passer rapidement quelques notes du dernier album d'un jeune homme qui s'appelle Wax Taylor, que je sais que tu connais.
Ah oui, bien sûr.
Et que je crois que tu affectionnes un petit peu. L'album est
venu à Rock, d'ailleurs.
Oui, bah oui, en plus. Et bah, l'album est réussi, et tu sais quoi, Wax Taylor, je le dis parce, et je le répète, parce que c'est pas tous les artistes qui sont comme ça, demande tout le temps un partenariat à la Ferra Rock, parce qu'il est sollicité par Radio France, entre autres, etc. Et non, il veut absolument toujours être joué avant tout sur les radios de la Ferra Rock, dans Radioactive, donc c'est bien normal qu'on se l'écoute un petit peu. Extrait de son tout dernier album à découvrir toute cette semaine sur nos radios, l'album s'appelle Fishing for Accidents, il est réussi en plus.
And let the world also know, as I tried to think today what to say, a traffic jam of those injustices crowded into my brain.
Don't be afraid to let them know, let them know, let them know.
Value is determined in the heart. So what's your price tag when they start asking you how many items in your cart? Let's thin it out, get it down to a few. Do you appease what you want or lean into what you need? 'Cause either way, you're gonna pay. Just how much do you wanna bleed? Let them know.
Don't be afraid to let them know. Let them know.
Never afraid to let them know.
You told us we were free. Well then, show us that we're free. You told us that there is justice. Well then, kids, stick to your word.
Never afraid to let them know. Price going up, I've let too many get it for the low. Let me tell you one more again, it's something that I've said before. Until we all free, ain't nothing free, pay what you owe. What's your story? Yo, that's rich, but you know most the globe is poor. In the gutter, thirsty for a come up where there's no clean water. With a hunger so deep, it eats that more than flesh and bone. Want a chance to stack some bread, you better learn to stretch the dough. Baker's dozen in my oven, stashing all the extra loads. Beans alive, a devil's pie when the chef is at the stove. Scheming like George Young, but still left yet to blow. Cameras in the ceiling, watching every section of the floor. They call it Big Brother, never was my brother though. They just treat us like we pawns and line us all up in a row. This game is all chess, so learn to watch for the decoys. If it ain't worth a check, no disrespect, but don't check for me, no.
Power is perceived in the mind and can always be persuaded from those of the same kind.
Un artiste qui est déjà venu à Rock, et c'est pas étonnant parce que c'est un artiste de talent, c'est Wax Taylor que l'on écoute sur Radioactive. Et si je vous parle de Rock, c'est parce que nous sommes en compagnie de Marie pour évoquer, on va être obligé de faire encore des épisodes, hein.
Je sens.
Évoquer la préhistoire de Rock. On vient d'évoquer que vous avez réussi à mettre les Brestois et les Rennais d'accord, ce qui est quand même pas rien, ce qui était encore moins facile en 1979-80 par là. Et puis ça s'est poursuivi. Il y a même eu une tournée, hein, on disait juste avant, que vous avez organisée. Finalement, vous avez été, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire précurseur avec Rock. Et puis il y a même eu un petit échec quand même.
Il y en a même eu deux. Oui, mais c'est important de parler aussi des échecs parce que justement c'est fort de échecs financiers, été 81, Jean-Michel et moi et les amis décide de faire un festival en plein été le 1er août à Saint-Brieuc, on loue pour ça un hall de Brésillet qui était géré à l'époque par la ville de Saint-Brieuc, donc on est allé taper à la mairie, oui,
par
oui
des
bien
expos.
Sûr, et donc...
Par des expos, je disais.
Oui, par des expos, et donc on fait venir une très belle affiche, puisqu'il y avait Dr. Feel Good, Magma, Les Nus, Les Dogs, WC3, donc une superbe affiche, et on affiche 4000 spectateurs.
Ouais.
Et pour nous, ça le fait pas. C'était pas suffisant.
Vite.
Donc on plonge un peu.
Il en aurait fallu combien?
J'entends. Je crois me souvenir qu'il fallait 5500.
Ah oui, c'était pas non plus.
Ouais, mais on plonge quand même, quoi. Et donc on est allé rencontrer le maire de Saint-Brieuc, Yves Le Foll, je me rappellerai toujours, pour lui demander, s'il vous plaît, monsieur le maire, de bien vouloir ne pas nous facturer le prix de la location du hall. Ce qu'il a fait d'ailleurs.
Très bien.
Voilà. Donc chapeau, monsieur Yves Le Foll. Mais c'est un mec bien à l'époque. Et donc, après, quand on a débriefé, on s'est dit, on était fous, quoi, en plein mois d'août, 1er août à Saint-Brieuc, il n'y a personne, quoi, c'est évident. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on
s'est dit... Il y avait quand même 4000 personnes, cela dit, donc
oui,
c'était quand même pas non
oui.
plus...
Bah oui, mais vous avez vu les noms aussi, Dr. Feelgood, excusez-moi.
Non, mais au mois d'août... à l'époque, les gens, ils allaient loin, ils prenaient leur bagnole, ils restaient pas à Saint-Brieuc, quoi.
Tiens, pour ceux qui étaient là en 1980, je vais vous raconter une petite anecdote. Magma, donc Christian Vander et toute son équipe, des femmes et d'hommes, enfin, choristes et tout, étaient bien sûr habillés de costumes blancs, de masques, enfin, il y avait toute une
scénographie,
mode. Magma.
Oui, c'est vrai.
Et ils ont oublié une malle de costume. Nous, quand on nettoie, quoi, le hall et tout, ah, on tombe sur une malle. On était joyeux, on avait quoi, la vingtaine, tout ce qu'on en était, bon, peut-être 24, 25, peu importe. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tous grimés, tous quelques-uns, en magma. Et puis, fort de ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah tiens, on a qu'à aller dans les bars. Et donc, on a déboulé à Binic. Je sais pas pourquoi on est allé jusqu'à Binic. Et on a fait tous les bars. Oui, on a fait tous les bars, comme ça, habillés en magma. Et on était très fiers de nous. Bon, après, on a renvoyé la malle. Hein. Bon, c'était une petite anecdote, comme ça. Mais pour vous dire qu'on n'a pas perdu le moral.
Ce Christian Vander, il n'est pas réputé pour avoir un très bon caractère. Il aurait pu mal le prendre.
Mais je crois pas qu'il l'ait jamais su.
Ouais, c'est
ça. On s'est contenté de renvoyer la malle après en disant, mince, c'est dommage qu'on puisse pas les garder. Ils étaient très très chics, hein, leur tenue.
Je vais me croire. Ouais.
Et donc on s'est pris comme ça pour... On a joué à être magma, voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on gardait bon moral, même si on savait bien qu'on n'avait pas eu assez de monde. Mais après, effectivement, on s'est dit, mais c'est bien sûr, c'est pas à Saint-Brieuc qu'il fallait faire ça, c'était sur la côte, puisque les touristes et le public est sur la côte.
Ouais.
Et ça, ce sera peut-être pour le prochain épisode qu'on verra ça.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez passionnant aussi. Et puis ça va être le départ aussi de toute une aventure qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est important à dire. Effectivement, parce qu'il nous reste, il nous reste quelques minutes quand même à passer ensemble, sans préfigurer, c'était du côté d'une belle station balnéaire, mais qui n'était pas forcément très rock'n'roll d'ores et déjà à l'époque, quoi.
Ben, on peut en parler si tu veux. C'était
rapidement.
Ouais. C'était en août 1982, donc un an après. On fait le festival de Sable dans les Pins, ça s'appelait comme ça. Et pour la petite histoire, enfin ça a été très compliqué, mais il faut savoir qu'à Sable dans les Pins, il y a une association de propriétaires. Elle dépend d'une commune, Plurien, en l'occurrence, à l'époque. Et le maire de Plurien et l'équipe nous dit, ah non, non, vous voyez, avec l'association des propriétaires. Donc, on les rencontre, on leur explique notre projet. On avait repéré un terrain qui est magnifique, qui est devant cette petite chapelle, juste en bord de mer, en bord de plage. Et les propriétaires, au bout d'un moment, parce qu'il a fallu quand même les motiver, nous disent, écoutez, on veut bien que vous fassiez on avait un projet, une soirée rock et une soirée jazz, à une condition, c'est que vous rajoutiez une troisième soirée, oui, pourquoi? Eh bien, parce que nous, on aimerait une soirée classique. Et donc, ils avaient un superbe théâtre ouvert à la Vallée de Diane. Le théâtre existe toujours, hein, théâtre en plein air à la Vallée de Diane. Et ils nous ont dit, voilà, on vous prête ce théâtre et vous allez nous faire une soirée classique. Pour la petite histoire, c'est la seule qui a bien marché au niveau fréquentation et sur le plan financier. On avait fait venir l'ensemble Heidelberg avec, bien sûr, les quatre saisons de Vivaldi. On ne s'est pas trop pris la tête. On s'est dit, allons-y, faisons quelque chose de grand public. Et bon, pourquoi les deux autres soirées n'ont pas vraiment marché au niveau fréquentation, c'est déjà parce que la soirée rock, on avait programmé Wilco Johnson.
Ah, c'était pas rien non plus, disons.
Guitariste de Dr. Phil Good, oui. Sauf que le Wilco Johnson n'est jamais venu.
Ah, il a pas
oublié d'atterrir. Ben voilà. En fait, ça aussi, on a appris. On est tombé sur un escroc qui nous avait fait verser une avance,
ouais,
au contrat. On ne savait pas que c'était un escroc. Il se présentait vraiment comme un agent.
Donc pas Wilco lui-même, c'était plutôt.
Oui, l'agent français, le tourneur.
Le tourneur, voilà. Ça existait déjà, oui, les tourneurs, malheureusement. Enfin, ça existait. Ben, je dis malheureusement.
Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, et en plus, il a plus des cordes, mais c'était impressionnant. On avait quand même d'autres groupes à l'affiche. Il y avait Ubik, il y avait Les Nus, toujours nos copains. Je crois même que Les Nus, c'est le groupe qu'on a le plus programmé de tout notre parcours de Wall Rouge.
Je sais que je les ai interviewés, moi, en tout cas, quand ils sont revenus il y a quelques années.
Ouais, ouais.
Donc, ils sont toujours par là. Puis Ubik, c'était quand même... Petite parenthèse sur Ubik, quand même, hein, le groupe de Mojart, c'était vraiment de l'avant-garde pour l'époque. Quoi.
Ah, complètement. Trop.
C'est pour ça. Ils ont préféré venir voir Vivaldi.
Pardon ?
C'est pour ça qu'ils ont préféré venir voir Vivaldi.
C'était un autre soir. Hein. Et donc, la veille de ce soirée de rock, on avait fait une soirée jazz, mais là aussi par plaisir personnel, avec pas n'importe qui, puisqu'il y avait Martial Solal, il y avait Larry Coryell.
Ah oui.
On a eu du monde sur ce soir-là, mais encore pas assez pour nous permettre de combler... Enfin bref, on a fait un déficit, quoi.
Ouais, mais ça va.
Un deuxième déficit, quand même. Hein.
Ouais,
donc ça fait beaucoup, là, quand même.